Alors ici, on est dans mon bureau, je dirais mon bureau, notre bureau, parce que je partage ce bureau avec ma directrice, une femme extraordinaire. Donc je suis heureux de partager ce bureau qui a un gros bordel ambiant, mais ça me ressemble assez. Voilà, c'est foutraque, y a plein de vie. Voilà, il y a des livres qui traînent de partout, des cartons qui restent de différents salons, un vestige incroyable de tout ce qu'on peut vivre à la librairie, que ce soit des colloques, des rencontres et autres. Donc voilà, on est dans à la fois un bordel ambiant, enfin le mien c'est le bordel, Valérie c'est plutôt bien rangé, voilà, c'est le symbole un petit peu de... Mais c'est un bel équilibre tout ça.
Bonjour, c'est Raphaël, bienvenue dans Instant Complice. Aujourd'hui, je vous emmène en balade avec Nicolas Auvinet, un homme passionnant, rayonnant, épicurien. Avec lui, nous allons parler de son poste de directeur adjoint de la librairie Richer, de son rapport à la lecture, des rencontres qu'il fait avec des auteurs, mais aussi de ses collègues avec qui nous avons échangé. Et puis, vous découvrirez d'autres talents que Nicolas nous avait cachés. C'est parti pour 30 minutes d'Instant Complice. Alors bonjour Nicolas, j'ai souhaité te rencontrer pour en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours professionnel mais aussi personnel. Mes invités choisissent leur lieu préféré d'Angers et c'est tout naturellement que tu m'as proposé de commencer notre balade au cœur de la librairie Richer, un lieu que tu connais parfaitement car tu y travailles depuis très longtemps. Alors pour les non-angevins ou ceux qui ne connaissent pas encore cette librairie, est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire de cette librairie ?
Oui, ce lieu, effectivement, j'aurais pu choisir plein d'autres lieux. Comme j'y consacre énormément de temps dans ma vie, depuis 18 ans maintenant, c'est une librairie, c'est une institution à Angers. Elle existe depuis 1927, une librairie généraliste qui est vraiment à pignon sur rue maintenant, en termes de que ce soit toutes les rencontres que nous pouvons réaliser, le dynamisme de mon équipe qu'on pourra peut-être découvrir tout à l'heure, on verra. C'est des personnes à la fois qui me sont chères, qui ont 18 ans quand même à passer en compagnie de mes collègues, ça devient presque des amis, hein, pour ainsi dire des amis pour pas mal d'entre eux. Donc voilà, j'ai décidé de commencer ici parce que c'est vrai que 18 ans quand même, c'est pas rien, c'est toute une vie, ça me fait même peur hein, d'entendre ça. Réaliser là, l'instant devant ce micro avec toi, ça me fait bizarre. Mais ça reste un métier absolument passionnant qui m'a animé et qui m'anime encore.
Et toi, du coup, ton histoire avec Richer, quelle est-elle exactement ? Comment tu es arrivé ici ?
Faut que je remonte en octobre 2003 exactement où je suis arrivé. La fois je suis arrivé sur les conseils de Monsieur Guillon. Monsieur Guillon, c'était le directeur de la librairie Coiffard, librairie là où j'avais fait mon stage à l'époque parce que j'avais fait un IUT information communication option métier du livre. Et puis ce Monsieur Guillon avec qui je m'entendais très bien ne pouvait pas m'embaucher en soi, alors que j'étais très bien dans cette librairie. J'ai voulu me rapprocher, parce que j'étais avec ma compagne de l'époque, sur Angers, et il m'a glissé le CV, en tout cas, vu avec Monsieur Richer, pour que je puisse être embauché. Et j'ai commencé au rez-de-chaussée pour vendre des cartes, des guides. Bah, ma foi, petit à petit, je suis monté, je voulais accéder à ce vers quoi mon plaisir vraiment me titillait, c'était la littérature, bien
oui,
entendu.
Oui, quand même, c'est ton domaine de prédilection.
Ouais, la littérature, c'est ce vers quoi je voulais tendre. Je voulais profiter de ce métier des lectures, profiter des conseils que vous pouvez me donner aussi. C'est ça qui est magique comme métier, c'est que on peut à la fois prodiguer des conseils de lecture, mais aussi en recevoir. Donc il y a pas beaucoup de métiers où on peut, voilà, il y a un échange comme ça qui s'opère. Quelques années après, j'ai mon âge d'or, je dirais, de la librairie, c'est lorsque j'étais au rayon poche. C'était le petit secteur qui est actuellement les sciences humaines, où j'étais parfaitement en place. Je pouvais proposer des conseils de tous les livres que j'aimais, que ce soit du fond, de la nouveauté. C'était absolument un moment magique. Et puis, au fur et à mesure, la littérature grand format. Et là, c'était l'extase totale, parce que toutes les nouveautés, on pouvait les apprécier avant tout le monde. Et puis, découvrir des véritables petites perles.
Ton quotidien, est-ce que tu peux me raconter un peu comment tout ça fonctionne, en fait ? Qu'est-ce que tu fais toute la semaine ? Donc là, t'es dans ton bureau, mais comment tout ça fonctionne ? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les coulisses de votre quotidien ? Parce qu'on vous voit en librairie, mais dans vos bureaux, on vous voit pas. Qu'est-ce que vous y faites ?
Alors, qu'est-ce qu'on y fait ?
C'est large comme question.
Ouais, c'est large, c'est large. Et en même temps précis, parce que c'est vrai qu'on a un quotidien, certes, qui peut être rythmé par des tâches, justement quotidiennes, des choses assez basiques, hein. C'est-à-dire qu'analyse, malgré tout, de chiffres, et puis prendre contact tous les matins avec l'équipe, savoir comment ils vont, les objectifs du jour. Le gros de ma journée, moi, c'est quand même prendre contact avec les éditeurs ou les partenaires. Des rencontres qui se font régulièrement en librairie, donc tout ça doit se préparer, s'anticiper. Donc il y a tout un agenda que je prépare en termes de communication, d'animation dans les librairies. Voilà, c'est ce qui se fait principalement dans le bureau. Et puis je peux recevoir certains collaborateurs pour quelques petits problèmes, des soucis, soit personnels, soit professionnels.
Oui. Ça arrive. La gestion des ressources humaines, finalement.
Exactement, exactement. Donc ça, c'est un domaine qui n'a pas toujours été évident parce que j'ai pas été formé pour en tant que tel. J'étais pendant, on va dire, 13 ans le collègue de mes collègues, vendeur en littérature, et puis je suis devenu leur responsable, parce que je suis directeur adjoint maintenant. Ça s'est bien fait, parce que c'est mon enfant, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente, on essaie malgré tout de garder le côté humain qui m'est cher, donc ça se passe
ça n'a pas changé trop tes relations, en fait, dans les rapports avec l'autre.
Oui, il y a des choses qui ont changé, bien entendu, à partir du moment où je deviens leur supérieur hiérarchique, évidemment. Je ne peux plus avoir le même rapport de copinage tel. Mais je suis moulé dans l'univers de l'amitié et des choses simples. Et puis j'aime bien rendre les choses assez humaines. Donc il n'y a pas de. Je déteste l'univers du petit chef et autres. Il y a je laisse la parole à tout le monde. Il y a un échange qui s'opère entre nous. Donc non, je reste humble par rapport à cette position-là. Il y a rien de.
Et des rencontres avec des personnalités du monde sportif, de la politique, tel François Hollande dernièrement, de la chanson et bien sûr du livre. J'imagine que tu dois avoir des moments aussi de stress un peu, ça doit pas être évident. Comment tu gères ça ?
Ouais, je sais pas si le stress est plus fort lorsque je rencontre les auteurs que lorsque je suis devant toi, Raphaël. C'est toujours impressionnant d'avoir un micro face à toi avec. Au début, c'est assez intenant. Évidemment, on fait des rencontres, une heure de discussion en général avec l'auteur et le public. Puis s'en suit une séance de dédicace. Le moment où j'ai dédramatisé vraiment le côté stressant de ces rencontres-là, c'est lorsque j'ai fait une rencontre avec Véronique Colmy. Et là, on s'était pris à part. Il y a toujours un petit échange avant, que ce soit à la librairie ou autour d'un verre ou d'un café dans un bar. Et elle m'a fait part de son stress. Et c'est là que je me suis rendu compte que, évidemment, c'est pas moi qui suis mis en avant. Et c'est vraiment pas mon souhait. Le but, c'est toujours, comme tu fais toi avec tes invités, j'aime bien mettre en avant les auteurs. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, ça glisse et puis.
Et les rencontres, tu les prépares avant ou c'est tout le temps de l'improvisation ? Là où t'es rendu dans ton parcours, comment ça se prépare ?
Alors, au début, je les préparais. Vraiment. C'est-à-dire que je mettais une semaine avant, et puis je me rendais compte que c'était trop figé. Il y avait quelque chose de questions-réponses, j'étais handicapé, j'étais trop figé par rapport à cette méthode-là. Et au fur et à mesure, j'aime bien relire la veille le livre. Pour pouvoir me réimprégner, parce que souvent c'est des livres que j'ai lus 3, 4, 5, 6 mois avant, pour me réimprégner de l'atmosphère du livre. Et puis je dégage quelques thèmes un peu généraux, et à partir de là, je laisse dérouler l'entretien avec les auteurs. Donc il y a des auteurs où c'est plus ou moins facile, il y a des auteurs où il faut un peu tirer vers le nez, mais la plupart du temps ça se passe bien, il y a un dialogue qui s'installe, et ça se fait naturellement.
Tu dois contribuer aussi à ça, mettre aussi à l'aise les personnes, et est-ce que le dialogue arrive finalement?
Ah oui, est-ce que tu te sens à l'aise là, Raphaël?
Là, pour l'instant tout va bien. Ça va s'inverser finalement, je vais devenir ton invité.
Oui, ça m'intéresse justement, on va inverser justement. Raphaël, quel est David? Qu'est-ce qui fait que tu aimes bien mettre les gens en avant? Ça m'intéresse, pourquoi ce serait à moi?
Attends, détourne pas l'attention comme ça. Donc, on en était. Ah oui, alors j'avais une question aussi par rapport à ton rapport à la lecture. J'imagine que tu lis énormément, même tout le temps.
Mon rapport à la lecture, il est quotidien. lorsque le temps me le permet aussi, parce que j'ai des enfants. Donc à partir de là, ça reste des moments que j'essaie de privilégier pour eux. C'est tous les soirs. Dès que j'ai un moment libre, j'ai toujours un livre près de moi et je lis. Il y a quelque chose que je regrette par rapport à mon habitude de lecture que je ne peux plus avoir parce que j'habite maintenant en plein centre d'Angers. Avant, j'avais toujours ces transports en commun, que ce soit le train ou le bus. C'était des moments privilégiés où j'adorais ces moments-là parce que j'étais dans ma bulle. J'étais plongé dans mon roman, dans mon essai, et ça restait
t'arrivais à te concentrer.
Ah bah complètement, au contraire. J'ai pas forcément besoin d'un silence absolu. Au contraire, lorsque si je suis chez moi, si je mets pas de musique, mais par contre lorsqu'il y a un bruit qui ne m'appartient pas, un bruit qui est ambiant, des discussions, des bruits de la rame, ça reste des choses qui me bercent. Et au contraire, ça m'implique encore un peu plus dans ma lecture. Donc j'ai pas de moment, j'ai pas de rythme, si ce n'est que la lecture fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que j'ai un temps libre, si je ne dessine pas, je lis.
Du coup, tu as rencontré, j'imagine, de nombreuses personnalités, mais je crois qu'il manque une personnalité à ton palmarès. On a reconnu Olivia Ruiz, donc je crois que c'est quand même ton rêve de la rencontrer aussi. Hein.
Effectivement, mais figure-toi que si, on a failli la rencontrer par deux fois. Et là, ce méchant Covid a mis à mal cette possibilité de rencontre. Oui, c'est une femme qui, son roman m'a touché, effectivement. Son univers musical me touche aussi. C'est une femme qui... voilà, qui est pleine d'énergie, c'est une tempête, ça reste une femme étonnante. Oui, je vois bien, et je ne désespère pas. Je ne désespère pas de la rencontrer parce qu'elle a sorti sa BD récemment.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Pourquoi pas, non, j'ai pas dit mon dernier mot encore, attention.
Et je crois quand même que vous avez un point en commun car elle parle de chocolat justement dans cette chanson et toi, tu as aussi une histoire avec le chocolat, le sucre, la pâtisserie.
Dis-moi, Raphaël, tu étais un sacré filou, tu connais toute ma vie, c'est incroyable. Oui, effectivement, j'étais pâtissier avant. Mon grand-père était boulanger, mon grand-père maternel était boulanger, mon grand-père paternel était pâtissier, mon père pâtissier, ma mère chocolatière. Et moi, bien évidemment, j'ai deux frangins, j'étais le seul à m'orienter vers cette voie-là. Donc j'ai passé mon bac et après le bac, j'étais déjà tous les week-ends à monter des pièces montées avec mon père et autres. Effectivement, j'ai été... pendant 4 ans pâtissier, en fait j'ai passé mon brevet de maîtrise, hein, pour pouvoir gérer ma boîte et puis m'occuper d'apprentis, former des apprentis, et puis ça reste toujours un métier qui m'est cher. J'en fais rarement des gâteaux maintenant, effectivement, mais il faudra que j'y refasse, et on me le reproche beaucoup d'ailleurs, il faudra que je m'y remette sérieusement. C'est arrivé à un moment dans ma vie où alors que j'étais dans ma dernière année de brevet de maîtrise, je voyais ma vie toute tracée, en fait. Je voyais ce qu'il allait devenir de mon avenir. Et en soi, ça m'a fait un peu peur. Et j'avais un copain qui était libraire, qui m'avait invité au salon Les Étonnants Voyageurs de Saint-Malo. J'y suis allé et j'ai pris mon pied et je me suis dit, pourquoi pas? Donc je me suis orienté vers cette voie-là en allant à Aix-en-Provence pour faire mon IUT métier du livre. Et ce métier m'a jamais lâché.
Je crois quand même que tu fais les meilleures tartes aux fraises du monde.
oui, c'est vrai, ça fait partie de mes desserts préférés, notamment... alors, pas n'importe quelle tarte aux fraises.
Ouais. Tu peux m'en parler?
Ouais, tu veux les secrets? Ouais. C'est une tarte aux fraises avec un fond macaronné.
Ah oui, quand même.
Ouais. Ça, c'est...
Donc, t'en fais toujours, en fait, de la pâtisserie, quand même.
Oui, il m'arrive d'en faire. La dernière fois où j'ai vraiment œuvré en pâtisserie, c'était pour le mariage de mes collègues, justement, dont je suis très proche.
Anne,
exactement. J'ai fait sa pièce montée en forme de livre, bien évidemment. Et donc oui, j'en fais toujours, mais je te ferai une petite tarte aux fraises.
Ah ouais, pourquoi pas. Voilà, parce que tu fais, là tu me fais une promesse, mais je crois que tu en fais régulièrement des promesses à tes collègues.
Ouais,
et visiblement que tu ne tiens pas forcément.
Hello Nicolas, c'est Anne. Il y a quelque chose que je voudrais te demander, Nicolas. Au-delà de toutes tes promesses, de tarte aux fraises, de tarte au citron, de meringuée, que tu nous promets toujours à la librairie, est-ce que vraiment un jour, Nicolas, cher Nicolas, tu pourrais nous en amener une pour de vrai au lieu de nous en parler, s'il te plaît? Merci.
Voilà, donc quand même, il faut maintenir cette promesse.
J'ai de nombreuses promesses. J'ai un grand cru vanille à réaliser pour quelqu'un qui m'est très cher. J'ai une tarte fraise pour Anne et quelqu'un qui m'est très cher aussi. J'ai un Queen Amman que je dois faire pour Elodie, une autre de mes collègues.
C'est qui, Anne, pour toi, une amie très proche?
Anne et Jérémy, le couple d'amis, Jérémy qui était libraire aussi ici. Ils me touchent beaucoup par leur humour, les liens que nous pouvons avoir sont indescriptibles. C'est très beau.
Alors, elle t'apprécie beaucoup, je crois. Elle a un message pour toi.
T'es un chef, Nico. C'est vraiment extraordinaire de travailler à tes côtés, d'être ton ami. Ton humour, ta joie de vivre, les soirées partagées, vraiment, c'est un plaisir et j'espère qu'on gardera longtemps, longtemps et qu'on va encore continuer à refaire le monde, à travailler, à s'éclater, quoi, voilà. Surtout, ne change rien, mon Nico. On t'aime et à bientôt.
On sent vraiment une belle amitié,
hein, ah, quelque chose de fort. Je suis ému, là, j'ai les trémolos dans la voix. Ça me touche beaucoup, effectivement. Voilà, c'est l'incarnation de à la fois de l'ami, de la collègue parfaite. Anne, je t'embrasse.
Je crois qu'elle travaille là.
Oui.
On va peut-être aller la voir.
Ouais. Okay. On va aller la voir. Ouais.
Jérémy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
pour le micro.
Anne.
Non, ça va.
Sarah. C'est qui, Nicolas, pour vous dans les relations du travail? Ça va? C'est votre chef ou sous-chef, comment vous l'appelez?
Ah, c'est sous-chef.
Ah, sous-chef.
Ah oui, il est important de garder le chef et sous-chef. Et sous-chef, ça lui va tellement bien.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Si, si.
Pas trop autoritaire?
Non. Non, non, ce serait peut-être plutôt le contraire d'ailleurs. Mais non, non. Non, non, fabuleux, c'est le mot qui convient.
Non, oh, c'est vraiment parce qu'il y a le micro.
Non, j'en fais trop, c'est le micro qui m'impressionne, ça doit être ça.
Et Jérémy, vous connaissez depuis longtemps, je crois, avec Nicolas.
Exactement, depuis très longtemps, super pote, hein, grand pote, il me manque, quoi, c'est tout, je ne travaille plus avec lui, donc c'est très dur maintenant pour moi. Donc je reviens de temps en temps.
Bon, moi, émotion.
Douze.
On allait à la rencontre d'Anne.
D'Anne, ouais.
Allez, on va la voir. Merci beaucoup.
À bientôt.
Alors attends, puisqu'on m'a parlé et aussi de tes dessins qui sont accrochés, dont tu ne parles pas finalement. On connaît assez peu cette passion. Est-ce que tu peux m'en parler?
Oui, alors ces dessins, j'aime toujours griffonner quand je ne lis pas. Je gribouille, je suis un gribouilleur du dimanche, je ne suis pas un vrai dessinateur. Hein,
quand même.
Ouais, après, on apprécie ou pas, mais c'est vrai que ça, ces portraits-là, ces citations-portraits, je les ai commencés lors du confinement. Maintenir un lien avec les auteurs qui me sont chers et puis certaines citations qui faisaient écho à ce que nous vivions à l'époque lors du confinement. Et puis ça m'est resté. Et depuis, j'ai poursuivi pour faire soit des vitrines où j'offre aussi à mes auteurs, en fin de compte, je leur fais leur portrait.
C'est vrai?
Ouais. À chaque fois.
Ils doivent être assez touchés quand même.
Ouais, c'est, y a des réactions diverses et variées. Il y en a qui se reconnaissent, d'autres qui se reconnaissent moins, mais en tout cas, ils sont toujours très touchés. Effectivement, de cette attention.
Ouais. Tu as même réalisé une bande dessinée.
Oui, une bande dessinée. Alors,
elle est là dans les librairies ou pas?
Non, elle n'est pas là. C'était une bande. C'est pas une bande dessinée qui est commercialisée en soi. C'était pour le fêter l'anniversaire d'un jumelage franco-allemand d'un petit village qui s'appelle La Tessoile, près de Cholet, avec Zufalten. Puis lorsque j'ai vu l'ambiance, l'amitié, l'amour qu'il y avait entre ces deux villages, ça m'a tellement touché que je me suis dit, il faut raconter. Alors ils se sont tournés vers moi, c'était une commande. Et puis ils m'ont demandé de faire l'album de l'anniversaire du jumelage.
On allait voir Anne, ouais. Je crois.
On va voir Anne avec le team.
C'est vrai? Oh.
Voilà, bonjour Anne.
Bonjour.
On se rencontre, on s'y va au téléphone, mais on se rencontre en vrai, donc c'est mieux.
C'est voilà. Mieux en direct. C'est
donc voilà, des jolis messages que vous avez laissés à Nicolas. C'est donc ça. Une belle amitié entre vous.
Tu m'as fait pleurer, Anne.
J'ai réussi à le faire. C'est vrai?
Mais oui, c'est vrai.
Ah!
Et puis je suis tellement content, en plus vous m'appeliez sous-chef, j'y tiens cette appellation-là.
Ouais, c'est vrai.
Il le revendique maintenant.
C'est ça.
C'est fort.
Et on parlait des jolis portraits. Vous voilà, avez juste jolis, au-dessus de votre bureau.
Moi, je les ai toujours avec moi et j'aimerais bien que tu en remettes d'autres d'ailleurs. Il faut qu'on réussisse à te. Parce que Nicolas est quand même assez modeste sur ses dessins.
Oui,
ses
c'est
dessins.
Vrai, il en parle peu.
Il en parle peu et on n'arrête pas de lui dire d'essayer de trouver un moyen de les reproduire et de les afficher vraiment, d'en faire une belle revendication de son talent.
Eh bien, je vais vous donner un scoop. Ouais, je vous inviterai au vernissage. Qui va se passer dans le petit bar Langevin, qui est en bas de la rue Le Neveu, tout en bas, près de la place Saint-Bac. Je vais mettre des portraits. Ouais.
Ah, waouh! Wow. Ouais. Ah bah. Scoop! Alors
là, que demande le peuple?
Pour les cadeaux de Noël et du
coup. Génial!
Et comme ça fera un petit pécule pour offrir un beau cadeau à Alexis.
Et là, tu serais capable de faire le portrait d'Anne? Peut-être que tu l'as déjà réalisé, alors. Je ne sais pas.
Mais j'ai déjà un portrait. Ah, on a un portrait familial, nous, en carrément. Fait. Oui, de mon mari, moi et les deux enfants. Ah, on a eu un cadeau de Noël, déjà. Ouais,
mais qui est différent. C'est vrai que je fais deux dessins différents. Quand je fais des portraits, je suis dans un dessin très réaliste. Mais que ce soit la BD ou des dessins un petit peu plus personnels, on est plus dans un côté un peu plus naïf. Des dessins qui sont dits très différents. Mais voilà, qui...
Et des portraits de ta famille, je crois que tu en réalises aussi.
Oui, j'ai fait des portraits de ma famille, mais disons, t'es bien au courant. Mais...
voilà. Merci voilà, Anne.
Bravo.
Et bon courage pour la suite. Je vais
taille-moi les hanches. À la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os.
Nous sommes installés donc sur une terrasse de café. On parlait de tes passions, justement, tout à l'heure, en sortant de la librairie. On parlait de tes dessins, mais tu as une autre passion, donc, qui est le basket. Donc, si je te donne ce petit ballon de basket, qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Mais j'ai envie tout de suite de fouler le parquet et puis d'aller taquiner la balle. Ouais. Ouais, le basket, pour moi, c'est plein de choses, c'est plein de rencontres, c'est toute une histoire de ma vie. D'amitié, mes compagnons, les intrépides, comme on les appelle.
Ah oui, ouais, les intrépides. Ouais. Quatre copains, je crois, une bande de quatre potes.
Ouais, t'es au courant, dis donc, c'est incroyable.
Quand tu étais au lycée ou dans ton enfance, en tout cas, tu avais dans ta chambre des cassettes de la NBA, des grandes affiches, un panneau de basket, donc vraiment une passion en toi depuis tout petit. Mais en fait, j'aurais dû m'en douter hein, que tu étais fan de basket, car tu es grand quand même, on peut te décrire hein, physiquement parce que c'est la radio. Mais la meilleure façon de te décrire, c'est d'écouter un de tes amis parler de toi.
Et puis moi je trouve que ce personnage, parce que c'est un personnage, Nico, pour une sortie de télé, c'est en fait une sorte d'arlequin. C'est un dessinateur, c'est un super cuistot. Bon, sauf quand il fait ses bouchées à l'arène.
Le bougre.
C'est quelqu'un qui repousse. Il impose, voilà, ben, ça fait charisme, mais ce côté, voilà, un peu arlequin, quoi.
Ben, je prends.
Alors, c'est qui cette personne?
Ah, c'est Ronan Pichavant, dont on a parlé plus en amont. Non, c'est Ronan, c'est... D'ailleurs, je défie Ronan, parce que plusieurs fois, Parce que lui, c'est un bon basketteur aussi, hein. Attention.
Ah ouais, d'accord.
Il taquine la balle, selon ses dires. J'attends de voir, justement, en un contre un, en one-on-one. Ouais. Et puis, on va voir, après, boire un petit chenin, comme on est en train de le faire actuellement.
Hein.
Et puis, d'ailleurs, il est pas mal. Hein.
Ouais,
carrément. Ouais. Ah, c'était pour Ronan, tiens. À la tienne, Ronan, on est chez toi, on est au Dipos, justement. C'est un de ces endroits aussi privilégiés.
Vous venez régulièrement ici?
Lui, plus souvent que moi. Mais oui, effectivement, on vient souvent taquiner le verre, élever le coude et puis refaire le monde ici ensemble. Et c'est une personne aussi importante dans ma vie. Hein.
Ouais. Ronan Pichavant, directeur du Festival d'Anjou. Vous êtes des épicuriens, tous les deux, vous partagez les mêmes passions, ouais. Le théâtre et la littérature.
Ouais, le vin aussi, effectivement.
Tu as déjà pensé à faire du théâtre, car tu as une gestuelle particulière, une belle énergie. Je te propose de réécouter Ronan qui évoque cette particularité.
Donc, il est grand. Il en impose, et quand il parle, il est toujours gestuel. C'est un mix de finesse, certain petit d'homme et peut-être un peu de courte manche. C'est la sexuelle et t'es n'importe de savoir. C'est-à-dire que quand il arrive dans un lieu, il faut reconnaître. Il faut pas avoir honte. Hein.
On parlait du théâtre, mais c'était avec lui particulièrement, c'est tout est théâtral et c'est ce qui me plaît.
Voilà. Alors quelqu'un d'autre m'a parlé de tes entrées plus ou moins théâtrales. C'est ton frère Thierry qui dit de toi que tu es quelqu'un de solaire. Alors il dit de toi quand même que tu es un bon vivant, tu aimes rigoler, tu aimes partager avec les autres. On sent une belle complicité aussi avec, avec ton frère Thierry.
Mon frère, mon copain, mon tout. C'est difficile à décrire ce que je peux ressentir. Je l'aime profondément. C'est un personnage. C'est mon héros.
C'est joli. Alors, vous êtes trois frères.
Oui.
Vous avez Cyril également, le plus grand. Thierry, ouais. Milieu. Et toi, donc, t'es le plus petit.
Ouais, le petit dernier. C'est lui qui passait à travers toutes les sanctions parce que je faisais passer ça pour mes frangins, c'était génial. Hein. Thierry, il saura de quoi je parle. Cyril, lui, mon grand frère, lui, c'est l'incarnation de la réussite, l'aîné que j'aime profondément aussi, mais qui est plus loin. Il est parti très tôt de la maison, donc c'est vrai qu'on a, j'ai moins de rapports avec lui, pas ceux que j'ai en tout cas avec Thierry, mais il a ma profonde admiration aussi pour tout ce qu'il a réalisé et tout ce qu'il fait. Maintenant, il est à Annecy, il travaille en Suisse, il incarne la réussite.
Et vous avez des amis en commun, dont DJ Spock.
Ah oui.
Salut Nico, c'est DJ Spock. On me demande des anecdotes sur toi depuis 4 jours. En fait, c'est un peu compliqué puisque sur 40 ans d'amitié, j'ai pas mal de trucs, j'ai pas mal de dossiers aussi. Mais quand même, le petit truc qui me revient en tête direct, c'est quand on était tous les deux en train de jouer à travers le grillage chez nos parents, mmh. avant d'avoir le droit, surtout l'âge, de pouvoir aller jouer chez l'un, chez l'autre, quoi. Et voilà, c'était ma petite Madeleine de Proust. Allez, je te fais des bises. Ciao.
Ah, mon DJ Spock, Olivier Vaux, Zitoun, c'est mon plus vieux pote. Voilà, j'ai effectivement rencontré Zitoun, j'avais 2 ans. Je l'attendais impatiemment, j'étais au grillage et je n'arrêtais pas de répéter avec une voix lancinante Olivier, Olivier. J'étais là, j'espérais qu'une chose, c'est que le voir apparaître et qu'on puisse jouer ensemble. Évidemment, Olivier aussi, c'est quelqu'un qui m'est très cher, c'est mon frère aussi. Grâce à lui, je découvre plein de choses, un univers musical aussi, avec les mixtapes de l'apéro, avec Titi, Sté, il y a plein de monde là, que je voudrais bien citer.
On va jouer au tac au tac, le jeu du tac au tac. Alors, je vais te poser, sans réfléchir, tu vas devoir me répondre aux questions que je te pose, d'accord? J'ai tout un tas de choses.
Ça me fait peur. Tu me fais peur, Raphaël. Autre verre, s'il vous plaît.
Un toc dont tu souhaiterais te débarrasser, Nico, sans réfléchir, comme ça, du tac au tac.
Remonter ma braguette.
Ah, tu remontes ma braguette.
Ouais, j'ai une tendance à laisser ma braguette ouverte, je sais pas pourquoi.
On veut pas savoir.
Bah non, je sais, okay. Je suis désolé, je vais aux toilettes, je sais pas pourquoi, que ce soit bouton ou zip, j'y arrive pas. Pardon, j'aurais jamais dû le dire. Merde.
Ton vêtement fétiche.
Mon col roulé.
Le cadeau le plus fou qu'on t'ait fait.
C'était un voyage à New York.
Ta fleur préférée?
La marguerite. Tout simplement, simple, ça me ressemble. On peut les feuiller, ça évoque plein de choses, mon sens. Et je faisais des petits colliers, comme beaucoup d'enfants, des petits colliers de fleurs à ma mère. Et ça
t'évoque des choses.
Ouais, ça m'évoque plein de choses. Ma mère, c'est mon héroïne, la femme la parfaite. Ma femme parfaite, c'est ma mère.
La photo d'un héros du quotidien, quelqu'un qui te fascine, que tu respectes énormément.
Eh bien, c'est pas une photo et je l'ai. C'est un dessin que j'ai fait de lui d'ailleurs. C'est mon papy, Papy Joe. Un héros, il a traversé. C'est une BD d'ailleurs que j'aimerais bien faire sur lui parce qu'il a une vie complètement folle. Bon, ça serait trop long à expliquer là, mais vraiment, c'est un personnage à part.
Pour terminer, Nicolas, j'aime poser la question à mes invités. Si tu rencontrais le petit Nicolas 10 ans dans la rue, là, actuellement, tu lui dirais quoi?
En fin de compte, ça me fait penser à un dessin, je ne sais plus, je crois que c'est Piem, qui a un adulte qui interroge un petit garçon. Et il dit qu'est-ce que tu voudrais être plus tard. Et le petit garçon il dit moi.
Ah c'est joli.
Ouais. Ouais. Et ben c'est ça, enfin quand peu importe les moments casse-gueule dans la vie, peu importe les chutes et tout ça, peu importe les moments, il y a eu des moments merveilleux, il y en aura d'autres. Voilà, bah je serai plutôt content de moi en fait, quand c'est comme ça, c'est la vie.
Merci Nicolas, il est temps de se quitter là. Notre balade aurait pu encore durer des heures tellement tu es passionnant. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Instant Complice.
Si j'avais un message à dire, c'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai citées méritent un entretien avec toi et méritent que voilà, ouais.
Merci en tout cas.
Merci à toi.